un podcast France Culture.
Dans les plaines arides de l'ouest iranien, au cœur de la vaste cité de Suse, entre l'Acropole, montagne sacrée consacrée aux dieux, et le palais du roi, eut lieu voici près de 3000 ans, comme chaque jour peut-être, ou peut-être plus rarement, une cérémonie cultuelle dont, unique en son genre, trouvée voici plus d'un siècle, scellée dans le mur d'une tombe, un plateau de bronze comme une image fanée, porte encore jusqu'à nous l'écho. Cet objet exceptionnel est un des trésors du Louvre. Que nous révèle-t-il de cette cérémonie sacrée? Que raconte-t-il de cette civilisation que l'on appelle parfois Élamite? Chef-d'œuvre en vie, une collection de Jean Deloisy pour le Musée du Louvre et France Culture.
Offrande dissimulée ou cérémonie solaire? La maquette en bronze dite le Sid Shamsi.
François Bridet, vous êtes conservateur au département des Antiquités orientales. Racontez-nous. Et surtout, décrivez-nous cet important objet.
Bonjour Jean Deloisy. L'objet que nous avons, que nous n'avons pas sous les yeux, mais que l'auditeur peut aller voir dans les salles du département des Antiquités orientales, est un objet tout à fait unique, un des chefs-d'œuvre du département, qui se présente comme un grand plateau de bronze de 40 cm par 60, avec en son centre deux personnages, nus, dans une nudité rituelle, qui se font face donc, et l'un des personnages est en train de purifier les mains du personnage qui lui fait face. La scène semble se dérouler en plein air, au milieu d'un espace souvent qualifié de sacré, de par les différents éléments qui ont été rapportés sur ce plateau et qui reconstituent, qui nous donnent à voir ce que pouvait être le cœur sacré de l'Acropole de Suse. Ce plateau, il est agrémenté autour de ces deux personnages de différents éléments, table d'offrande, support de libation, autel, stèle, réserve d'eau et trois petits arbres qui évoquent les bosquets sacrés propres à la religion élamite. Et puis, plus important, deux édicules à degrés ornés de cornes, symboles divins, qui représentent très certainement les principaux temples de Suse. Mais nous reviendrons peut-être sur l'interprétation, puisque nous n'avons que peu d'éléments qui permettent de mieux situer cette scène rituelle.
Mais nous savons que nous sommes à Suse, qu'il y avait effectivement une ou deux ziggourats d'ailleurs, François.
Alors, nous savons que nous sommes à Suse déjà, puisque l'objet a été retrouvé à Suse.
C'est-à-dire à l'est du Golfe Persique?
À l'est du Golfe Persique, dans le sud-ouest de l'Iran actuel, dans une zone de plaine où cette capitale du royaume élamite, puis du royaume achéménide, à partir du milieu du premier millénaire, a été fondée à la toute fin du cinquième millénaire, aux alentours de 4200. Et un site particulièrement important, d'abord pour l'histoire de toute la région, mais aussi pour l'histoire de l'archéologie française, puisque, et c'est aujourd'hui pour cela que cette œuvre est visible dans les galeries du Louvre, ce site a fait l'objet de fouilles archéologiques très importantes dès la fin du XIXe siècle, jusqu'en 1979 et la révolution islamique.
C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il y ait une telle collection, peut-être une des plus importantes du monde, au musée du Louvre.
Exactement. Donc en raison de cette forte présence française dans le domaine de l'archéologie en Iran depuis la fin du XIXe siècle, que le Louvre possède aujourd'hui une des plus importantes, en tout cas après les collections nationales iraniennes, d'archéologie iranienne.
Alors cet objet est, est un objet très important, presque unique. On va revenir sur son interprétation, sur sa signification. Mais il a été également découvert dans des conditions particulières. Et j'aimerais qu'on entende l'état d'esprit dans lequel il a été trouvé.
C'est au cours de la campagne 1904-1905, au centre du tumulus, à une faible profondeur. Un pan de mur qui semblait appartenir aux plus basses époques. Là, nous mîmes au jour un plateau de bronze portant en ronde bosse une série de figurations. Il était dissimulé dans un bloc de plâtre affectant exactement les dimensions des briques de l'époque élamite. Les suintements verdâtres d'oxyde de cuivre nous révélèrent la présence du bronze. Mais, si grande était la dureté de la gangue, qu'il nous fallut plusieurs jours et d'infinies précautions pour dégager ce curieux spécimen de l'art susien. Quelques éléments, malgré nos soins, disparurent. En particulier, les feuilles du bosquet sacré. Si mutilé qu'il soit, ce plateau n'en offre pas moins un intérêt capital, et l'inscription qui le date a pu, par bonheur, être suffisamment débarrassé des impuretés qui la masquaient pour être rendu lisible.
L'une des énigmes, François Bridet, que nous nous posons, c'est cet objet n'a pas été, enseveli dans une tombe près d'une momie, d'un cadavre, etc. Non, il a été emplâtré, en quelque sorte. C'est très étrange, cette façon de faire. Est-ce qu'il a servi simplement de matière, de matériau? Est-ce qu'il était là par rapport à une signification particulière? Quel rôle a-t-il? Et est-ce que c'est un cas très particulier, justement, que de trouver dans ces circonstances-là une œuvre de cette importance?
Alors, tout est un peu unique, en réalité, à propos de cet objet. Effectivement, comme le rappelait la lecture des récits des fouilleurs de Suse, cet objet a été découvert pris dans cette gangue de plâtre, enserré dans un mur, appartenant à une tombe de basse époque, tantôt interprétée comme une tombe d'époque parthe. Donc là, nous sommes vraiment dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, les mêmes fouilleurs reviendront sur certaines interprétations en signalant que la tombe est en réalité une tombe élamite. Considérant l'importance de l'objet, on peut alors se poser la question de savoir quel était le défunt enterré dans cette tombe. S'agissait-il du roi? S'agissait-il de quelqu'un d'autre? Malheureusement, ça, nous ne le savons pas. En tout cas, toujours est-il, c'est que cet objet placé dans cette tombe, je pense qu'il ne devait pas s'agir de sa destination initiale. Il s'agit avant tout d'une offrande faite par un roi, comme le rappelle l'inscription d'ailleurs portée sur l'objet, puisque l'œuvre a été commanditée par le roi Shila Kinshushina, qui a régné sur le royaume des lames, sur l'Iran, dans les années 1150-1120 avant notre ère. C'est donc un objet royal qui, par extension, pourrait avoir accompagné le roi dans sa tombe, si tant est que cette tombe dans laquelle elle a été découverte, puisse être réellement attribuée à l'époque du roi Shila Kinshushinak.
Pensez-vous, François, vous avez l'air de penser que si elle a été ensevelie ainsi, c'est plutôt pour la protéger que pour s'en servir de matériaux. C'est parce qu'elle était importante.
C'est parce qu'elle était importante et puis souvent, ces objets, notamment quand il s'agit d'objets dédiés au culte, peuvent avoir plusieurs vies. Une vie du vivant, du commanditaire. On peut imaginer l'œuvre présentée dans un temple. Et puis, à la mort du commanditaire ou dans d'autres circonstances, une réutilisation de cet objet, effectivement, dont on peut penser qu'il ait pu être mis à l'abri pour le masquer à la vue d'éventuels pilleurs. Mais là, c'est toute l'incertitude à la fois du contexte de découverte et puis de ces fouilles très anciennes à une époque où l'archéologie n'était pas encore une science aussi développée qu'elle peut l'être aujourd'hui. aujourd'hui.
Ou peut-être pour fonder, ça me fait penser presque à un clou de fondation, si je puis dire. Quelque chose de...
Alors, il y a aussi cette tradition-là au Proche-Orient ancien, à la fois en Mésopotamie, mais aussi en Iran. Et à Suse, nous avons, les archéologues ont retrouvé un certain nombre de dépôts de fondation, effectivement, généralement plutôt constitués d'objets, comme vous le disiez, assimilables à des clous,
donc des avec bornes, des, en fait.
Voilà, de bornes, qui sont là pour, effectivement, symboliquement ancrer le bâtiment, généralement un temple, la demeure d'un dieu, à la surface de la terre. On pourrait aussi envisager, mais un dépôt de fondation pour une tombe, si tant est que le contexte décrit par les fouilleurs est exact, serait un peu plus étrange.
Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais que vous nous éclairiez, mais rappelons déjà ce qu'est ce royaume. C'est un royaume, un moment de puissance, et où c'est un royaume qui est à la fois puissant et militaire.
Exactement.
Donc le royaume des expéditions.
Donc le royaume des lames est né à la fin du 3e millénaire. Il s'agit, alors on hésite encore à savoir s'il s'agit d'un réel royaume ou d'une confédération en fait de différentes principautés, de différents petits royaumes, en tout cas d'une entité politique élamite, donc avec une identité iranienne très forte, avec cette particularité très rapidement dans le courant du second millénaire d'avoir deux centres de gravité, deux capitales. Donc la ville de Suse, étant la capitale du pays de plaine qui fait cette transition géographique entre les plaines du sud mésopotamien et les hauts plateaux iraniens.
Un espace
très sec, très plat. Et au contraire, un arrière-pays sur le haut plateau, avec comme capitale la ville d'Anshan. Et d'ailleurs, ces rois élamites, en tout cas dans la deuxième moitié du deuxième millénaire, se réclament rois de Suse et d'Anshan. Donc pour traduire la dualité un petit peu de ce royaume qui va rivaliser avec les plus grandes puissance mésopotamienne. Et d'ailleurs, Shilakin-Shushinak, ce grand roi élamite du XIIe siècle, et ses prédécesseurs ont organisé de nombreux raids punitifs, différentes conquêtes en direction de la Mésopotamie, dont ils ont rapporté un certain nombre de monuments prestigieux, tels le code d'Amourabi, la stèle de Naram-Sin, donc de souverains mésopotamiens plutôt de la fin du 3e et du début du 2e millénaire, et qui ont étaient découverts de fait lors des fouilles de Suse et qui aujourd'hui constituent aussi certains des chefs-d'œuvre du département des Antiquités orientales du Louvre.
Donc cette cérémonie à laquelle on assiste en regardant cette œuvre est une cérémonie qui est dédiée au soleil.
Alors dédiée au soleil, je ne sais pas. C'est toute la question, mais en tout cas, le nom même de cet objet qui est donné par l'inscription, donc ce terme de Sid Shamshi, à noter d'ailleurs que l'inscription elle-même est en élamite, mais que le nom de Sid Shamshi qui est utilisé pour désigner cet objet est un nom akkadien, donc un nom plutôt emprunté à la langue mésopotamienne, Sid Shamshi se traduit par lever de soleil. Alors s'agit-il d'une cérémonie au soleil? Peut-être pas, mais en tout cas une indication temporelle qui indique que ces libations, cette purification rituelle à laquelle s'adonnent les deux prêtres, se déroulaient très certainement au début de la journée, en préambule à des rites qui, là, ne sont pas représentés, mais donc plutôt une indication temporelle qu'une cérémonie directement liée au soleil.
Alors, on va écouter cette inscription dont vous venez de parler et nous la commenterons. Et puis surtout, on va rentrer dans le détail de chacun des éléments de cette stèle.
Moi, Shilak Inshushinak, fils de Shutruk Narunte, serviteur aimé d'Inshushinak, roi d'Anshan et de Suse, agrandisseur de l'Empire, protecteur de l'Elam, souverain du pays d'Elam, j'ai confectionné un Sid Shamshi, un lever de soleil en bronze.
Informations dans ce bref texte. D'abord, sa langue. De quelle langue s'agit-il? Et est-ce que c'est la langue commune à la Mésopotamie ou est-ce que c'est une langue élamite strictement?
Alors l'inscription elle-même est en élamite, c'est-à-dire cette langue parlée dans le monde iranien contemporain, donc une langue très différente des langues sémites parlées majoritairement en Mésopotamie. Mais par contre, il faut toujours faire la distinction entre la langue et l'écriture qui transcrit cette langue. L'écriture, elle, est une écriture cunéiforme, donc cette écriture qui a été mise au point dans le monde mésopotamien dès la fin du 4e millénaire, et puis ensuite avec toute une évolution et une fixation de cette écriture dans le courant du 3e millénaire, et qui a ensuite été adaptée à la langue élamite. L'inscription est très importante, elle nous donne le nom du commanditaire, et puis surtout, elle nous donne le nom de cet objet, Sid Shamshi, qui semble décrire aussi la temporalité dans laquelle s'inscrit la représentation cultuelle qui nous est donnée à voir.
Alors, un mot sur le nom du roi, parce que c'est un nom théophore, dit-on parfois. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Alors, tout simplement théophore, puisque le nom même du roi comprend le nom du dieu dont il était le premier adorateur.
Inshushinak.
Inshushinak. Inshushinak étant le grand dieu de Suse, le dieu tutélaire de Suse. Donc, on a là une proximité très forte qui s'exprime à travers le nom du roi, entre le roi étant le vicaire du dieu sur terre, le premier adorateur du dieu. Inshushinak était le dieu de Suse, mais il y avait aussi un dieu lié tutélaire de la deuxième capitale de l'Élam, Napirisha, donc dieu tutélaire, lui, de la ville d'Anshan.
Qui est le grand dieu des eaux primordiales.
Exactement.
Donc ce sont les deux grands dieux principaux, et là c'est Inshushinak. Et donc on est au début d'une cérémonie, et les deux prêtres qui sont là, l'un purifiant les mains de l'autre, semblent avoir deux physionomies très différentes.
Alors c'est parfois ce qui a été abordé par certains commentateurs. On peut effectivement se poser la question, s'agit-il simplement de deux prêtres ? Est-ce que l'un de ces deux officiants, alors peut-être... L'objet est aussi abîmé, donc c'est difficile aussi de se fixer sur... ces différences physionomiques parfois relevées. On pourrait imaginer que le roi participe lui-même à cet exercice, ce qui pourrait expliquer, à défaut de symboles permettant d'identifier cette figure royale, cette physionomie différente qui pourrait signaler deux fonctions, deux natures humaines différentes.
Alors, sur ce modèle, il y a aussi, donc, vous l'aviez dit, le bosquet, donc un petit groupe d'arbres. Est-ce que ça évoque justement une autre nature, celle de Anshan que celle de Suse ?
Alors les bosquets, difficile de rattacher plutôt à un environnement, un écosystème plutôt lié à Suse ou à Anshan. En tout cas, les bosquets sacrés étaient, dont ces arbres seraient le symbole, était une des particularités de la religion élamite. Comme en Mésopotamie, il y avait des temples, mais il y avait aussi des sanctuaires beaucoup plus liés à la nature, à des sources, à des formations rocheuses. Et on a dans les inscriptions de tous ces souverains élamites de la seconde moitié du deuxième millénaire l'attestation de la création de différents temples du bosquet, donc certainement des lieux très liés à la nature dans lesquels était révélée la divinité aux fidèles.
Alors il y a aussi, donc il y a ces bosquets, il y a des petits tumulus qui sont probablement des offrandes avec une différence d'échelle. Au fond, l'échelle n'est pas révélatrice dans une structure comme celle-là.
L'échelle n'est effectivement pas révélatrice, et d'ailleurs c'est quelque chose de très commun aussi à l'art du Proche-Orient. Et effectivement, nous avons la représentation de différents éléments du mobilier liturgique, des petites tables d'offrande coniques, des grandes tables d'offrande, des supports à libation, une grande vasque dans laquelle justement les prêtres venaient puiser l'eau pour procéder aux purifications ou aux libations. Et puis, beaucoup plus intéressant, ces deux édicules à degrés, parfois interprétés comme les deux temples principaux de Suse, peut-être comme des ziggourats, ou peut-être comme d'autres bâtiments importants du sanctuaire principal sur l'acropole de Suse.
Alors la ziggourat, cette pyramide à degrés, il y en a une qui est à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Suse, et qui semble révéler
que la description qu'il y a dans cette maquette de la cérémonie est assez juste puisqu'on la trouve ailleurs.
Exactement, exactement, puisque alors on sait qu'Assuse se trouvait une ziggourate, alors qu'il n'a pas été retrouvée, puisque semble-t-il, elle a été, enfin, on en a l'idée de l'emplacement, mais elle a semble-t-il été rasée, érodée de manière très forte. Et par contre, comme vous l'évoquiez, à 40 km de Suse se trouve un autre site archéologique important, contemporain à quelques siècles près de l'objet qui nous intéresse, qui est le site de Tchogazambil, sur lequel se trouve aujourd'hui une des ziggourates les mieux préservées de l'ensemble du Proche-Orient. La ziggourate n'est pas uniquement un élément de l'architecture élamite, mais un élément plus commun aussi à l'architecture mésopotamienne. Donc cette grande pyramide à degrés, et donc les fouilles de la ziggourate de Tchogazambil ont effectivement mis au jour, au pied de la ziggourate, sur le parvis sud-est, donc là même où le soleil se levait, toute une série de dispositifs cultuels, de mobilier cultuel, qui évoque trait pour trait les choses qui sont représentées sur ce site Shamshi. Donc on retrouve là aussi cette idée de cette temporalité, de ce lever de soleil, de cette scène culturelle liée au début de la journée et donc une représentation un petit peu de la séquence liturgique qui devait se dérouler ensuite tout au long de la journée.
Y a-t-il d'autres exemples dans les musées du monde ou en archéologie d'une description sur cette période-là d'une cérémonie ?
Alors, c'est un objet assez unique, en tout cas sous une forme 3D, donc sous la forme d'un modèle en 3D. C'est un objet absolument unique. On a d'autres représentations de scènes culturelles, bien sûr, sur des stèles, sur des sceaux également, donc ces petits rouleaux de pierre qui étaient imprimés sur les tablettes d'argile, mais rien de tel sous la forme donc d'un modèle en trois dimensions.
Alors, il révèle aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est le talent de métallurgiste, au fond, de cette population il y a 3000 ans.
Exactement, c'est aussi une des grandes caractéristiques de l'art et de l'artisanat, mais à ce niveau de technicité, on peut parler, je pense, véritablement d'art, de toute cette époque dite médio-élamite, donc de la seconde moitié du deuxième millénaire. Le site Shamshi en est une parfaite illustration, puisqu'il a été intégralement réalisé en bronze, donc qui est un mélange d'étain et de cuivre, selon des techniques métallurgiques bien maîtrisées dans le monde iranien, au moins depuis le début du troisième millénaire, et un objet qui se présente sous une forme un petit peu altéré, puisque c'est un matériau qui s'est effectivement corrodé, et puis un objet qui devait être beaucoup plus précieux qu'il nous apparaît aujourd'hui, puisque les analyses faites à la surface de l'objet montrent notamment, et en particulier pour les deux édicules à degrés, les deux supposés éléments architecturaux de ce site Shamshi auraient pu être plaqués d'or, d'argent, donc ce qui amplifiait encore une fois la préciosité et l'unicité de cet objet.
On le voit quand même dans un état assez formidable. Il manque peut-être quelques feuilles aux branches du
Exactement.
Bosquet, quelques éléments qui étaient d'or et d'argent, dites-vous, hein, probablement. Donc c'était polychrome d'une certaine façon.
Voilà, il y avait une forme de polychromie et ça c'est quelque chose qui est attesté aussi, notamment dans la statuaire, où on avait cette habitude de plaquer certaines statues de feuilles d'or, de feuilles d'argent, pour à la fois en rehausser l'éclat et puis en rehausser la préciosité pour des objets qui était destiné avant tout au plaisir des dieux.
Une dernière chose qui m'intrigue, vous parlez de cet objet dédié au plaisir des dieux. Lorsque le roi était là, Shilak Inshushinak, où était cet objet avant qu'il soit inclus dans une tombe ? À votre avis, c'était dans une salle de réception, dans un temple ? Quel pouvait être le dispositif, si je puis dire ?
Alors, difficile de préciser tout cela, mais je pense qu'il s'agissait d'une offrande faite par le roi à son dieu, donc d'un objet qui devait être présenté au dieu lui-même, donc à sa statue, dans l'enceinte sacrée, dans l'enceinte sacrée du temple. Et d'ailleurs, l'objet, si tant est qu'on considère qu'il ait été retrouvé dans une tombe, cette tombe se trouvait en tout cas à très forte proximité des principaux temples de l'acropole de Suse, qui constituait le centre religieux de la ville, et où se trouvait notamment le grand temple dédié à Inshushinak, auquel cet objet était dédié.
Merci infiniment, François Bridet. Je comprends donc que cet objet extrêmement important, presque unique, qui vient à nous du lointain des temps, poursuit dans son activité psychique ce grand hommage au soleil et cette cérémonie qui ne cesse de se répéter ainsi depuis des millénaires. Et nous voici au terme de cette rencontre avec le Sitchamsi, la cérémonie du lever du soleil, non plus auprès d'un singulier objet inerte, mais en communion avec un rituel dissimulé dans la pierre pour qu'ainsi protégé puisse se renouveler infiniment cette alliance nécessaire entre nous, les dieux et le cosmos.
Que la légende existe.
Chef-d'œuvre en vie, une collection de Jean Deloisy pour le Musée du Louvre et France Culture.
Cet épisode a été consacré à la maquette en bronze du XIIe siècle avant notre ère, dite le Sitchamsi, exhumé à Suse. Merci à notre invité François Bridet, conservateur au département des Antiquités orientales du Musée du Louvre. Lecture des textes, Clotilde M. et Michel Esco. Réalisation, Céline Terce. Prise de son, Éric Boisset et Antoine Viossa. Coordination, Camille Renard et Élodie Piel. Recherche, les équipes du Musée du Louvre. Une série à retrouver sur le site franceculture.fr et l'application Radio France.